Radio Okapi.
Comment évoluent les startups en RDC? C'est le thème retenu aujourd'hui dans le magazine 100% Jeune. Pour ceux qui ne savent pas, une startup est une nouvelle entreprise innovante, généralement à la recherche d'importants fonds d'investissement avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique. Nous allons donc pour se faire écouter quelques jeunes qui s'expriment à ce sujet. Dans ce nouveau numéro de 100% Jeune, vous suivrez également Choladine, le CEO de Keen Startup Academy, et Bonnie Maya, un des pionniers du commerce en ligne qui organise le tout premier salon du e-commerce au pays. Bienvenue à toutes et à tous. Âgé de 30 ans, Arsène Tungali gère son entreprise Smart Service SARL depuis 4 ans maintenant à Goma. Une entreprise spécialisée dans la traduction et la formation en langue, il partage avec nous son expérience de patron d'une start-up émergente. Écoutons-le.
Pour moi, pour entreprendre, il faut entreprendre dans un domaine qu'on maîtrise. Je ne suis pas bon à vendre des choses. Aller acheter de quelque part et venir revendre, ça, c'est pas mon truc. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai trouvé que non, c'est pas mon truc. Alors, c'est là que j'avais réfléchi au moment où je voulais entreprendre, ça veut dire au moment où je voulais lancer quelque chose. Je me suis dit, quelle est ma force? Et qu'est-ce que je peux bien offrir au monde afin que le monde puisse me payer? Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin et être payé parce qu'on a résolu un problème. Et donc, tous les entrepreneurs, j'imagine, ils réfléchissent sur un problème dans la société et ils y apportent une solution.
Et
ils sont payés pour ça. Mm-hmm. Et donc, tous les grands riches ou les grands patrons de ce monde ici, c'est parce qu'ils ont offert quelque chose qu'ils ont reçu de l'argent et les gens ont payé pour ça. Alors, je me suis dit, ben, je parle anglais, pourquoi ne pas vendre cette capacité-là et que je sois payé pour ça? Alors, c'est là que je me suis lancé plutôt dans la vente des services.
Et donc, vous faites la traduction, votre entreprise offre principalement la traduction.
Alors, encore une fois, quand on se lance dans les services surtout, il faut être focalisé. Focalisé, ça veut dire tu es reconnu dans quoi. Et moi, je suis content aujourd'hui quand les gens voient Smart Services, ils voient les langues, parce qu'on est spécialisé dans les langues. Et dans les langues, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit des documents. On est à mesure de faire plusieurs langues. Mais principalement, les langues nationales et le français et l'anglais. Donc, on a le français, l'anglais et les quatre langues nationales. Et donc, on traduit d'une langue à une autre, vice-versa, autant qu'on le veut. Et donc, c'est ça notre spécialité. Et pendant 4 ans, on a voulu que les gens puissent nous connaître comme étant des spécialistes des langues. Et bien sûr, à côté, c'est là que les gens ont dit, ben, vous faites les langues, est-ce que vous pouvez aussi former en anglais? On s'est dit, ouais, ça cadre toujours avec notre domaine d'expertise. Et donc, on peut faire.
C'était un domaine pas très occupé par des entreprises, donc ça a été une bonne affaire pour vous.
Exactement, parce que avant de faire ça comme une entreprise, je le faisais comme freelance. Le freelancing, c'est donc un individu qui a des capacités et qu'on appelle de temps en temps pour offrir ce service-là. Donc j'ai traduit des documents, j'ai servi d'interprète de manière autonome. Alors je me suis dit, pour rendre ça sérieux, et peut-être par rapport à la vision, où est-ce qu'on veut aller, c'est à quoi on veut arriver. Et je me suis dit, au lieu de continuer à faire cela en tant que moi-même, laisse-moi faire ça en tant qu'une entreprise pour que d'un côté, je puisse gagner la confiance des partenaires. Parce que la plupart des partenaires, ils veulent faire un partenariat avec des gens qui sont structurés, des gens qui ont une adresse, des gens qui payent les taxes et qui payent les impôts et tout ça. Et bien sûr, c'est là que je me suis dit, ben, je vais créer une société. Mais en deuxième lieu, parce que je ne voulais pas que ce soit moi seul. Déjà que je suis impliqué dans beaucoup d'autres choses à part ceci, et donc il était important que j'ai une équipe. Et je ne sais pas faire une équipe si mon entreprise n'est que dans la poche, ou si je ne fais que des choses à moi-même. Alors j'ai créé une société pour réduire, c'est vrai, le taux de chômage et employer d'autres gens, bien sûr des gens qui sont qualifiés dans les secteurs dans lesquels nous travaillons, et ainsi avoir une adresse et ainsi bénéficier de la confiance des partenaires.
À vous écouter, comme c'est un domaine qui est pratiquement votre passion, il n'y a pas eu assez de difficultés, mais est-ce que ça a été vraiment facile sur tous les parcours?
Ça n'a jamais été facile, et si je dois dire que ça a été facile, j'aurais menti. Et moi, je me dis toujours une chose, quand tu l'as fait sans beaucoup de difficultés, ça donne pas, ça n'inspire pas, mais aussi ça, pour toi, ça ne t'encourage pas à continuer. Et donc, je suis l'une de ces personnes qui ne favorise pas la facilité, et donc j'aime me lancer dans des défis.
Perfect, c'est le nom de l'une des start-up lauréates du prix Amani Entrepreneur l'année dernière. Nous sommes toujours à Goma, dans le Nord Kivu, où Perfect donne une seconde vie aux pneus usés en les transformant en meubles de luxe. Elie Bigaboua, qui en est le directeur général, explique à quel point c'était difficile de lancer une entreprise, surtout dans ce domaine où il n'y avait pas d'autres entrepreneurs. Pour lui, son entreprise est une aventure exceptionnel. On l'écoute.
En fait, c'était pas facile pour nous d'abord de lancer notre entreprise Perfect. On a échoué plusieurs fois. L'idée d'abord était venue à acheter seul, tout au début. Après cette étape-là, il fallait maintenant que je voie d'autres personnes, d'autres amis qui étaient comme des associés au départ. Toutes les deux personnes avaient déjà des occupations. Ça veut dire qu'ils travaillaient quelque part là où ils trouvaient quelque chose chaque fin du mois. Les projets en soi, c'était d'abord une idée. Et comme vous le savez, bien, notre projet, c'était encore nouveau sur le marché. En tout cas, on s'inspire seulement sur Internet. Il n'y a aucune personne qui avait déjà fait ce que nous faisons ici à Goma. Rares sont les personnes qui croyaient vraiment que ces projets seraient réalistes. Et alors, même les amis, quand je les avais intéressés pour la première fois, ils avaient un tout petit peu du mal à croire que vraiment on devait construire une chaise avec un pneu. Mais tout ce qu'ils ont cru, c'est d'abord ma façon propre à les aborder. Et puis, au départ, on n'avait absolument rien. On n'avait rien comme argent et d'ailleurs on venait tous fraîchement d'université. Ça veut dire, personnellement j'étais en train de chercher un emploi, si je peux le dire, comme on est toujours habitué après les études, chercher un travail et tout ça. Et les autres qui travaillaient déjà mais qui venaient aussi fraîchement de finir l'université. Et puis on a commencé, on n'avait pas un financement pour débuter, c'était d'abord le premier obstacle que nous avions eu. Et pourtant, le petit budget que nous avions déjà avant de démarrer nos entreprises valait autour de 1000 dollars tout ça. Mais on savait quand même qu'on devait trouver un pneu avec une forêt mécanique. Qui c'est qui pouvait nous permettre de trouver au moins un pneu et mettre des cordes et faire au moins quelque chose du genre chaise, tout ça. Et entre nous trois, comme on était vraiment convaincus du projet, c'était facile de trouver des 100 dollars. Moi-même, j'ai vendu mon téléphone. D'autres amis ont cherché une petite somme d'argent. On a commencé. On n'avait pas un local, même une place où on devait travailler. C'est qu'il fallait que nous puissions voir un de nous trois, celui qui a un espace chez lui à la maison. Et c'est là qu'on avait commencé. C'est dans une petite maisonnette. On avait commencé. Et quand on parlait d'un autre projet devant plusieurs personnes, personne ne croyait vraiment que l'on devait réellement faire une table avec des pneus ou bien faire une chaise avec des bouteilles plastiques. Et puis, il ne fallait pas que nous restions, c'est mort, tout parce que c'est un travail qui demandait une main d'œuvre considérable. On a cherché d'autres personnes qu'on avait formées avant 6 mois. Il y a déjà quelques personnes de nous qui commençaient déjà à s'impatienter. Des gens, ça ne paye pas, en tout cas, on a du mal à rester à la maison, demander des savons tous les jours aux parents, qui commençaient déjà à désespérer. Et s'ils trouvaient quelque chose comme emploi, comme travail, quelque part, même des 100 dollars, ils quittaient facilement. Et nous, on avait du mal à les promettre, quoi, que ça va marcher, ça va. C'est-à-dire, la vision que nous avions, c'était que ça devrait marcher un jour. C'est ce que nous leur disons. Mais c'est-à-dire, on était convaincus, moi-même personnellement, j'étais convaincu au départ que je n'arriverais pas trop loin. Avec tout le monde. Ça veut dire, j'étais convaincu qu'il y a quelques personnes exactement qui pourront partir.
Mmh. Et pendant ce moment-là, ça vous affectait aussi quand les amis vous abandonnaient?
Ça nous a affecté. On a fait une affaire de 2 mois. On ne travaillait pas. Mmh. Et même nous tous, à part moi personnellement, parce que j'étais vraiment au projet, plusieurs personnes avaient déjà d'autres occupations. Et on disait, en tout cas, c'est fini. En tout cas, on disait, c'est fini parce que les problèmes étaient déjà survenus. Les problèmes d'ordre financier. C'est que l'entreprise ne donnait pas beaucoup d'argent. L'entreprise, on était juste là pour se sacrifier tout le temps possible. Et même une petite somme d'argent qu'on trouvait quelque part ailleurs, on investissait maintenant dans l'entreprise. Et il n'y a aucune personne ou bien aucune banque qui pouvait croire qu'il devait investir de l'argent dans cette affaire. Et non plus, c'était pas notre première motivation. Parce qu'en tout cas, personnellement, j'avais une petite information, une petite conviction que trouver les investisseurs au début du projet, c'est pas tout à fait possible. Mais travailler et bosser toujours sur les projets facilement, et même pour s'emmener d'une manière ou d'une autre.
Et donc, les prix Amani Entrepreneur que vous avez remportés en début 2019, à la 6e édition du festival, vous a un peu boosté, vous a redonné l'énergie?
Ah oui, ça nous a boosté un tout petit peu, mais pas trop, parce que les prix étaient venus quand on travaillait déjà bien. Parce que nous, on existait déjà. On existait, les prix étaient venus quand on existait. Et déjà, on commençait à avoir quelques commandes. On commençait déjà à gagner une confiance, une petite confiance.
Cholédine, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc très heureux de vous recevoir dans 100% jeune aujourd'hui.
Oui, oui, moi aussi, je suis très heureux d'être là, encore une fois.
Ce n'est pas une première fois, vous êtes un habitué de ce magazine.
Exact.
Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de Kinshasa Startup Academy qui arrive à sa 3e édition.
Exact.
Alors, quelles sont les nouveautés pour cette saison ?
Alors, pour cette saison, on a de grandes nouveautés. On est très fiers d'annoncer que Kin Startup Academy est à sa 3e édition. Et cette édition, elle sera nationale.
Nationale. C'est la première nouveauté ou la seule ?
C'est pas la seule. C'est la toute première.
D'accord.
C'est la première nouveauté. On aura 5 provinces. On va couvrir 5 provinces. Que je peux citer, donc
oui,
c'est bien,
oui,
parce
oui,
que
oui,
les auditeurs peuvent savoir s'ils ont le droit de postuler, de déposer la candidature et tout. Alors on a le Haut-Katanga, bien entendu avec le Mobashi, on a le Lualaba avec le Vesi, on a la Tchopo avec Kisangani, nous avons donc le Nord Kivu avec Goma, et enfin Congo Central avec Matadi et bien sûr Kinshasa.
Donc ça c'est évidemment 5 provinces.
Six provinces.
Ville province. Alors ça c'est la première innovation pour cette 3e saison. Et l'autre innovation c'est quoi ?
L'autre innovation c'est que cette fois-ci on a ajouter les mentors dédiés. C'est quoi concrètement ? D'habitude, quand on commence les formations de Green Startup, on a des équipes qui s'affrontent, c'est un concours, vous savez, on forme des équipes d'ailleurs. On forme les équipes parce qu'on veut aussi forcer les gens à travailler en équipe, ce qui n'est pas évident pour nous les Congolais. Et on veut montrer cet exemple aux jeunes. Et ensuite, une fois qu'on a formé les équipes, à partir de la formation des équipes cette année, on aura des mentors dédiés. Mais les mentors dédiés, ce n'est personne d'autre que les anciens candidats de Kin Startup, donc de la première édition, qui sont aujourd'hui devenus déjà des entrepreneurs, ils font du chiffre d'affaires, ils ont maîtrisé leur modèle, ils ont un parcours, et du coup, ils vont mentorer les nouveaux. À la demi-finale, les mentors vont s'affronter aussi également. Leurs mentors aussi, juste après, vont pitcher. Pour eux, l'idée c'est de les sauver s'il y en a qui étaient en balbutiement ou quoi. L'idée de les sauver avec des points ou de les enfoncer si le mentor aussi n'est pas bon.
Un peu comme on dit repêchage quoi.
Repêchage. Alors du coup ça fait que les mentors sont en compète aussi. Et l'idée derrière tout ça c'est quoi ? C'est qu'on va remettre aussi les projecteurs sur les mentors, leur parcours, expliquer aux gens l'impact de Kin Startup fondamentalement. Donc les gens qu'on a eu dès la première édition où ils en sont aujourd'hui et ils sont déjà si bien qu'ils peuvent même mentorer de nouvelles personnes et on va dire leur parcours, comment ils sont, leur entreprise avance, comment eux-mêmes en tant que personnes, quels sont les prix qu'ils ont eu sur leur parcours dans l'écosystème et tout ça. Il y a d'autres nouveautés mais après c'est des surprises aussi, on va pas tout dire quoi. Après on veut aussi faire découvrir, vous savez, c'est comme c'est un concours, c'est un show, c'est un TV show, on veut aussi garder quelques petits suspens, quelques petits secrets, quelques petites surprises que les gens vont découvrir au fur et à mesure de l'aventure.
Alors, petit rappel pour nos auditeurs, c'est quoi Kin Startup Academy ?
Alors, Kin Startup Academy, c'est un concours télévisé qui met en compétition des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets. Donc, on peut venir avec juste une idée de projet. Et Kin Startup Academy est devenue une académie justement, parce que c'est parti d'un concours. Aujourd'hui, c'est une académie qui a plusieurs produits en son sein, donc qui a le concours, qui a le forum et qui a également fait des léopards la mise en relation avec des investisseurs. Donc Kin Startup, le concours, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça reste un concours pas élitiste, mais on va dire où on sélectionne les meilleurs, pas les meilleurs entrepreneurs, mais les meilleures personnes, les meilleurs porteurs de projets qu'on essaie de transformer en entrepreneurs à succès. C'est surtout un creuset de formation très sérieux, de haut niveau, de standards internationaux, et c'est surtout pas la seule chose que Kin Startup n'est pas, c'est pas un distributeur de chèques cadeaux. Il faut venir parce qu'on a envie de devenir un entrepreneur, parce qu'on vous donne tous les outils pour être un entrepreneur, on vous ouvre notre carnet d'adresses, on vous met dans l'écosystème, on vous donne de la valeur, on vous donne un réseau pour que vous deveniez entrepreneur et que vous sachiez d'ailleurs lever vos fonds vous-même.
Revenons maintenant sur le déroulé de la 3e saison de Kin Startup Academy. Vous êtes sur 6 provinces, donc 5 provinces plus la ville-province de Kinshasa, donc ça fait 6. Quel est le calendrier ?
Très bien, on a lancé l'appel à candidature depuis le 1er février, d'accord ?
Oui.
Et ça va durer jusqu'au 2 mars. Le 2 mars, on clôture. À partir du 3 mars, on fait les présélections sur dossier et on envoie le 4 mars, très exactement, on va balancer sur les réseaux les 100 candidats qui seront retenus sur tout le nombre qu'on est. Aujourd'hui, on est déjà autour de 400 candidatures déposées et je suppose que jusqu'à la fin de février, on sera quand même autour de 600. Et on va sélectionner que 100. Donc le 4 mars, on va publier les 100 candidats sélectionnés. On va donner rendez-vous aux 75 de Kinshasa, parce que à Kinshasa, on va retenir 75 personnes sur les 100. Les 25 autres, ce seront dans les provinces, donc 5 par province. Vous comprenez?
Oui.
5 par province. Et on va leur donner rendez-vous tout le monde, le 6 et le 7 pour les castings.
D'accord.
Les castings vont se dérouler ici à Kinshasa, mais pour les provinces, ils vont pitcher en ligne via Skype ou WhatsApp même.
Okay.
Mais ils seront chez l'un de nos points focaux de la province. Donc dans chaque province, on a un point focal qui va les recevoir le jour même.
D'accord.
Et ils seront là. Et au moment opportun, quand nous on va lancer le signal de Kinshasa, ils vont pitcher devant les membres de jury depuis là où ils sont vers Kinshasa. À l'issue, on va retenir une personne par province.
D'accord.
Une personne par province. Cette personne sera pendant la semaine entre le 7 et le 15. Ils vont voyager tous. Ils vont venir à Kinshasa, tous les 5. Qu'on aura sélectionné dans chaque province, ils vont venir à Kinshasa rejoindre.
Donc, 5 candidats par province vont venir pour la finale à Kinshasa.
Non, une personne.
Ah, une personne par province.
5 seront sélectionnés sur dossier, les 5 vont pitcher, mais à l'issue, on retiendra une personne par province.
D'accord.
Et à Kinshasa, on retiendra 35.
D'accord.
Donc, 5 par province plus les 35 de Kinshasa, ça fera 40. Et c'est 40 personnes qu'on amène en formation du 16 mars jusqu'au 1er avril, jusqu'au 1er avril, et la finale c'est le 2 avril.
La finale le 2 avril.
Voilà.
Et le 2 avril, vous allez retenir combien?
3 lauréats, comme d'habitude. 3, le premier, le deuxième et le troisième en classement.
Peu importe, Kinshasa, province, peu importe.
L'idée c'est qu'on ait des ambassadeurs dans les provinces maintenant, parce que notre vision c'est quoi? C'est qu'on aille faire dans un futur proche les concours carrément dans les provinces. Et si on doit venir, il faut qu'on ait déjà des ambassadeurs, des gens qui nous connaissent, qui connaissent les valeurs de Kinshasa, qui ont été déjà formés par Kinshasa, qui pourront parler aux autres de Kinshasa. Et c'est ces ambassadeurs qu'on veut avoir aujourd'hui avec cette édition.
Choladine, en tout cas, c'est formidable, ça a l'air très intéressant pour cette troisième édition. On sent que le projet est en train de grandir. C'est cette émission ici consacrée un petit peu au bilan, sur ce que sont devenus les startups depuis pratiquement 2 ans qu'on en reçoit sur notre plateau. Quel est votre aperçu à vous, puisque vous êtes encadreur? Est-ce qu'il y a évolution?
Ah, ça regarde très enthousiaste. Moi, je suis très satisfait. En fait, satisfait, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je suis heureux de ce qu'est devenu l'écosystème et ce qu'est devenu certains entrepreneurs par tous. Mais il y a quand même des success stories. Il y en a plein aujourd'hui. Et moi, j'ai vu un écosystème qui est parti de rien. Où à l'époque, sans citer de nom, le seul entrepreneur qu'on avait à Kinshasa, c'était Bonny Maya. Aujourd'hui, on en a plein, on peut citer plein de noms, des gens qui ont vraiment pas réussi, on va pas dire ça, mais qui ont eu un parcours, qui peuvent m'inspirer
Qui
se sont installés. On a plein, et au-delà de l'entrepreneur même, de la start-up même, on a maintenant tout mécanisme d'encadrement aussi qui s'installe. Et c'est ça aussi, c'est à féliciter, c'est à encourager d'ailleurs, parce que avant, il n'y avait quasiment pas d'incubateurs ou des choses qui y ressemblent. Aujourd'hui, on a de vrais incubateurs sur place, on a un accélérateur sur place, on a des pré-incubateurs, on a même, parce que depuis que moi je suis en train d'organiser le Kinshasa 3, je me suis rendu compte qu'il y a au minimum 3 ou 4 entreprises ou start-up de financement de start-up. Vous comprenez? Oui! Oui. Donc, vous voyez comment l'engouement de l'écosystème est en train de se transformer, en train d'évoluer, en train de grandir. Et ce n'est qu'à féliciter. Moi, je suis très, très content de ça. Et le regard que je porte en tant qu'acteur, je suis acteur de l'écosystème et aussi encadreur de jeunes entrepreneurs. Je pense qu'on est sur une très bonne lancée. Seulement, il faut recadrer les choses.
Je pense que comme quoi?
Recadrer les choses, c'est
pourquoi
il y a beaucoup, d'opportunistes aussi. Parce que maintenant, justement, parce que l'écosystème est en train de grandir, il y a certains qui se disent, OK, tiens, il y a affaire à faire, quoi. Il y a COP dedans aussi. Il faut y aller. Il faut aller créer des choses, faire croire qu'on encadre des jeunes ou faire croire qu'on est membre de l'écosystème. Et ça, il faut vraiment qu'on fasse en sorte de trier le bon grain de livret et savoir que il y a des gens qui font du vrai boulot et eux doivent y être, et que les autres qui font pas le vrai vrai travail, parce que après c'est les jeunes qui en pâtissent. Si on a des coachs qui sont pas formés eux-mêmes et qui veulent former d'autres, voyez. Et donc il faut vraiment très rapidement que ce soit peut-être le j'allais dire le gouvernement, c'est quelque chose que j'aime pas trop dire, mais quand même il faut qu'à un moment que le gouvernement, je sais qu'il y a des il y a déjà des lois, la loi est en cours, tout ça, mais en tout cas il faut vraiment qu'on contrôle, qu'il y ait une certification, qu'il y ait une labellisation.
Oui, on parle par exemple de la loi start-up, on en a parlé l'année passée.
Oui,
avant, exactement. Vive à RDC, la délégation qui allait à Vivatech, vous étiez même sur le plateau.
Bien sûr.
On l'a évoqué et aujourd'hui, apparemment, les choses se mettent en place. On va recevoir lors des prochains numéros d'autres personnes qui vont en parler, puisqu'ils sont vraiment au cœur de cette actualité-là. La loi start-up pour encadrer le secteur des start-up. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est l'heure de le mettre en place?
C'est l'heure. C'est clairement l'heure.
Pourquoi?
Je crois que l'heure est passée. D'ailleurs, je crois qu'on est un peu en retard.
On est un peu en retard sur ce point-là.
On est un peu
d'accord.
En retard parce que effectivement, vous voyez, on est en avance. Mais c'est souvent ça. Hein. Je veux dire la société souvent en avance sur les législateurs. Souvent ils regardent ce qui va dans la société ou ce qui va pas pour légiférer. Mmh. Et c'est exactement à ce niveau qu'on est aujourd'hui. On est très en avance sur le législateur. Et le législateur doit suivre et recadrer.
Bonny Maya est directeur général de Tinda et imart.cd, mais aussi représentant de Congo Business Network en RDC. Il nous parle des services qu'offrent ces entreprises, de l'évolution de start-up ici en RDC, mais aussi de ce tout premier salon du e-commerce qui se tient du 21 au 22 février à Texaf Bilembo, de la commune de Ngaliema, à côté du complexe Utex Africa. Bonny Maya est au micro de Hervé Voka.
Alors nous avons au départ Imart, imart.cd, qui est une plateforme de vente en ligne des courses alimentaires. Pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses alimentaires dans le supermarché ou bien à Zando carrément, nous offrons à ces personnes-là notre plateforme. Ils peuvent commander en ligne, ils peuvent mentionner l'adresse de livraison, ils peuvent payer en ligne ou bien la livraison. Et nous nous occupons de la constitution de leur panier.
Okay.
Pour aller livrer directement à l'adresse mentionnée, à domicile ou bien au bureau, et ainsi de suite.
Okay.
Alors nous permettons également aux Congolais de la diaspora, qui avaient l'habitude généralement d'envoyer de l'argent à la fin de chaque mois, surtout pendant le mois de décembre pour les festivités, nous leur permettons également, en lieu de place d'envoyer forcément de l'argent, de faire ce qu'on appelle le cash to good. Donc de commander directement les provisions alimentaires pour leur famille restée au pays, de payer en ligne en utilisant des cartes bancaires internationales, et nous nous livrons directement auprès de leurs bénéficiaires.
Comment ça se passe à l'étranger?
Alors donc ils se connectent sur notre site www.imart.cd, ils choisissent les différents packs, nous avons des packs déjà formalisés, mais s'ils ne veulent pas choisir de pack, ils peuvent également constituer un panier de A à Z, donc rajouter de la farine, rajouter du riz.
Comment se passe la livraison à l'étranger? Voulais-je dire?
En fait, ce que je dis, c'est que nous ne livrons pas à l'étranger.
Okay.
Nous livrons au pays,
okay,
mais auprès de familles de la diaspora qu'on laisse rester au pays.
Et Tinda?
Alors Tinda, c'est un service de livraison à domicile. Nous permettons aux vendeurs en ligne, ou à tous les autres vendeurs physiques également, de pouvoir délivrer directement au domicile de leurs bénéficiaires ou bien en lieu de service les différents produits qu'ils vendent, mais avec possibilité de faire ce qu'on appelle du cash on delivery, donc d'encaisser du cash à la livraison. Alors pour l'instant, nous livrons les colis, les courses alimentaires, je ne dis pas de la nourriture préparée, nous ne faisons pas dans la nourriture préparée, nous livrons plutôt les courses alimentaires, nous livrons du courrier, des documents événementiels, donc des invitations d'événements et tout, nous faisons de la livraison des produits cosmétiques, nous faisons également de la livraison des produits pharmaceutiques. Et là, nous venons également de signer un contrat pour délivrer des cartes bancaires. Donc, quand vous allez souscrire à une carte bancaire, généralement, ça vous prend une à deux semaines pour pouvoir être livré, pour pouvoir recevoir l'appel de la banque pour dire voilà, passez, récupérez votre carte. Nous, ce que nous faisons, c'est que voilà, vous commandez votre carte, mais vous ne déplacez pas à la livraison, nous livrons directement cette carte.
Pas du vestimentaire, non.
Si, nous faisons également du vestimentaire. Nous avons beaucoup de clients également qui font du vestimentaire, que ce soit des clients qui sont directement au pays ou des clients qui sont en dehors du pays, qui envoient également des colis directement à notre entrepôt. Nous conservons pour eux. Et quand ils ont des commandes, ils nous mentionnent juste, voilà, tel produit livre à tel monsieur, encaisser autant. Et voilà, dès qu'une certaine somme est atteinte, nous leur envoyons cet argent via une solution de paiement que nous nous sommes convenus.
Bonny, vous êtes un des pionniers du commerce en ligne ici en RDC. Alors, que pensez-vous de l'évolution de start-up en RDC?
Alors, c'est vrai que le chemin a été un peu difficile, parce que ce mouvement n'a pas commencé, en fait, a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais moi, je me dis que voilà, nous sommes sur la bonne voie parce que aujourd'hui, nous avons des startups qui ont pu lever des fonds au niveau local. Je parle de voilà de School Up. Mmh. Nous avons des entreprises qui s'installent à l'étranger, des startups qui s'installent à l'étranger. Mmh. Je cite le cas de Imart que je gère, okay. qui ouvre bientôt sa filiale européenne au niveau de Bourgogne mmh. pour livrer des produits exotiques à destination de toute la diaspora africaine okay. À vivant en Europe, okay. mais également tous les autres voilà les autres personnes qui aiment bien la cuisine africaine. Voilà.
Okay.
Et donc vous avez ces deux concepts là, ces deux concepts qui marchent quand même. Mmh. Et vous avez d'autres solutions également comme MaxiCash qui mmh. voilà qui est géré par un Congolais mmh. vivant en Afrique du Sud qui a créé cette solution fintech en Afrique du Sud et qui revient au pays pour s'installer également au pays qui a maintenant un bureau ici en RDC. Donc mmh. pour vous dire que voilà, il y a 2-3 cas comme ça de start-up qui grandissent très bien et qui promettent des beaux jours mmh. pour cet écosystème des start-up.
Et vous allez tenir alors le tout premier salon e-commerce et fintech, c'est comme ça ?
Exactement, donc.
Voilà. Fintech en février 2020. En quoi consiste-t-il ?
Ces salons, c'est un lieu d'échange que nous avons voulu créer pour cet écosystème de gens qui évoluent dans le e-commerce, donc dans la vente en ligne, mm-hmm. qu'ils aient des sites internet professionnels ou juste des simples pages Facebook ou de comptes WhatsApp sur lesquels ils vendent des produits, mm-hmm. mais aussi des personnes qui ont des solutions fintech. Quand je dis solutions fintech, je vois d'abord les startups qui sont dans les e-wallets, comme MaxiCash, comme CFC, un peu aussi comme MultiPay, qui a un modèle hybride. Mmh. Mais aussi des entreprises qui évoluent dans la fintech. Quand je dis des entreprises qui évoluent dans la fintech, je vois Airtel qui fait dans le Airtel Money, mmh. qui est une solution mobile money. Mais je vois également TMB avec PPN Mobile qui est une solution mobile banking. Je vois également la BCDC avec la BCDC Mobile mmh. qui est une solution mobile banking. Mmh. Donc nous avons comme ça voilà ceux qui ont des solutions mobile money, mobile banking, des e-wallets qui se réunissent aussi aux côtés des entreprises évoluant dans la vente en ligne pour pouvoir créer cet écosystème là uh-huh. mais aussi pour pouvoir créer un lieu d'échange, un cadre d'échange. Alors nous avons mis en avant dans notre salon parce qu'il y aura 15 ateliers. Au départ on avait pensé à 13 ateliers, il y aura 15 ateliers uh-huh. et des ateliers thématiques qui permettent à ce que les gens puissent apprendre. Des uh-huh. ateliers qui seront animés par des grands chefs d'entreprise uh-huh. Comme Congo Call Center, comme CFC, comme TMB, comme BCDC, comme Infocet et tout. Des ateliers thématiques qui permettent à ce que les porteurs de projets, les curieux, les étudiants, les gens qui ne sont pas encore décidés, mmh. de pouvoir trouver des solutions à certaines questions qui se posent, des réponses à certaines questions qui se posent, et de pouvoir améliorer leur système, soit leur système de gestion, soit leur système de gestion de la relation client, mmh. soit de peaufiner un peu leur stratégie marketing, de peaufiner un peu leur stratégie de gestion de la comptabilité, okay. de peaufiner leur business model ou leur modèle économique, des choses comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce salon qui a sa première édition, mm-hmm. qui commence demain à Texas Bilembo, la salle d'exposition. Les droits d'entrée n'est que de $20
okay.
pour accéder aux 2 jours, mais 2 jours avec 15 ateliers, vous avez accès à tous les ateliers, vous avez également accès à la salle d'exposition avec 34 exposants. Mmh. Vous pouvez rencontrer directement les directeurs techniques de la TMB, de la BCDC, de RTL, de CFC, de MaxiCash, mmh. Rencontrer des startups comme Africom et tout ça, pour mmh. discuter avec eux, pour voir dans quelle mesure votre projet peut avancer, échanger des cartes de visite et prendre des rendez-vous.
Et rapidement, c'est à quelle heure déjà ?
Ça commence à 8h30 parce que nous avons l'honneur de recevoir la délégation du ministère de PT Antique pour okay. la séance d'ouverture. Ça commence à 8h30 et nous allons jusqu'à 18h.
Ok, à quel résultat vous attendez-vous ?
Alors, pour cette première édition, nous voulons vraiment créer ce cadre d'échange et ce sera très intéressant pour nous d'avoir déjà un grand nombre d'affluences, qu'on ait beaucoup de visiteurs dans le salon. Nous avons estimé avoir 1000 visiteurs. Je ne sais pas si nous allons doubler demain, mais voilà, j'invite tout le monde à pouvoir passer, à venir visiter les stands, à venir rencontrer les acteurs de l'écosystème, que ce soit dans l'e-commerce ou dans la fintech, à venir apprendre lors de nos 15 ateliers thématiques. Le droit d'entrée n'est que de $20 et ça donne accès à tous les 2 jours.
Ainsi prend fin ce 100% jeune consacré aujourd'hui à l'évolution des startups en RDC. Merci à Rosalie Zawadi et Hervé Voka qui ont participé à la production de ce magazine, supervisé par Thérèse Kankou. La prise de son était assurée par Dieudonné Nyangassa. Je suis Baya Chamala. Retrouvons-nous rapidement la semaine prochaine sur la même radio, même heure. Mais vous pouvez tout de même suivre cette émission sur notre site web radiocapi.net. Ciao ciao et à très bientôt.